Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie dans l'émission Vers de Terre, l'émission pour les auditeurs Vers de Rage. L'émission des étudiants et étudiantes du Master Politique Environnementale et Pratique Sociale de l'Université Toulouse de Jean Jaurès.
Dans cette émission, nous vous proposons d'explorer les stratégies adoptées par les militants et militantes environnementaux, ainsi que leurs utilisations des médias. Au-delà de comment militons aujourd'hui pour protéger la planète et ses ressources, nous souhaitons comprendre comment s'arment les militants et militantes pour médiatiser et répandre leurs idées. Médiatiser idées et actions ne se fait en effet pas de manière désorganisée ou aléatoire.
Les militants et militantes apparaissent aujourd'hui comme de véritables experts et expertes, dotés de méthodologies et de stratégies. Pour certains et certaines, militer est une véritable profession. Ici, nous chercherons à identifier le répertoire d'actions utilisées par les militants et militantes pour avoir la couverture médiatique la plus avantageuse possible. Dans cette lutte pour l'environnement, ces militants et militantes rencontrent en effet des contraintes, comme celle de la communication, qui les oblige à moduler leurs actions ainsi que leur rapport aux médias. On entend ici « médias » comme moyen de communication servant à transmettre et à diffuser des informations, des œuvres. Par exemple, la presse, la radiodiffusion et la télévision sont des médias.
S'il est important pour les groupes militants de réfléchir à leurs actions sur les médias, c'est que malgré leur neutralité affichée, ils ne relaient pas l'information proportionnellement à son importance. Pour Pierre Bourdieu, ils sont comme toute entreprise, c'est-à-dire à la recherche de profit. Ils sont donc soumis à la loi du marché et aux règles de l'audimat. Ils ne peuvent pas se permettre alors de diviser, ce qui les amènerait à se priver d'une partie du public. Ils traitent donc en majorité de sujets futiles, tels que les faits divers. En effet, ils ne sont jamais abordés de manière politique, mais toujours sous l'angle de la circonstance particulière ou de l'individuel.
L'affaire Pierre Perman nous en a donné un bon exemple. Toutes les autres informations, notamment le débat autour de la réforme des retraites, ont ainsi disparu. Pour reprendre la formule de Bourdieu, le fait divers fait diversion. Il permet de ne pas parler des questions qui divisent.
Et ce n'est pas tout. Leur volonté d'être rentable les amène à utiliser des sources plutôt qu'en être une.
Ah bon? Comment ça?
Rechercher de nouvelles informations, les vérifier, ça a un coût important. Et les médias vont pas beaucoup réutiliser les informations de l'AFP et les autres médias. Ils relayent donc toutes les mêmes informations. C'est en plus renforcé par la peur qu'ils ont de passer à côté d'une information qui les encourage à traiter les mêmes sujets.
Mais c'est pas le seul biais des médias. Serge Halimi, rédacteur en chef au Monde Diplomatique, montre comment une grande partie des journalistes qui occupent les postes importants des télés, radios et journaux mainstream font partie du tout petit monde de la classe dominante, où tout le monde partage les mêmes intérêts et à peu près les mêmes idées, au moins dans leur style de vie et dans leurs idéologies.
Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, l'une des causes de ce phénomène, c'est l'absence d'indépendance des médias, qui sont presque tous possédés par des milliardaires qui s'en servent comme tremplin pour leur idéologie. Selon une enquête du Média Basta, 90% des quotidiens nationaux vendus chaque jour appartiennent à 10 oligarques, qui possèdent des télévisions et radios qui totalisent respectivement 55% et 40% des parts d'audience. Les effets de cette concentration bourgeoise sont omniprésents. Selon CSA, à la télévision, seuls 3% des personnes interviewées sont des ouvriers contre 61% de cadres.
Donc concrètement, c'est quoi l'impact des médias alors? Ils ne peuvent pas entièrement déformer la vérité.
Oui, malheureusement, ce n'est pas quantifiable. Les sociologues Macomb et Shaw trouvent ainsi trois pouvoirs aux médias. Définition, cadrage et hiérarchie. La définition signifie que les médias fixent l'agenda politique en donnant la temporalité des problèmes. Le moment où l'on s'y intéresse, le temps qu'on y consacre. Vient ensuite le pouvoir de hiérarchie. Nous l'avons vu, les médias sont considérés comme neutres, même s'ils ne le sont pas. En choisissant certains sujets, selon des critères propres à leurs intérêts et leurs idéologies, ils leur donnent une légitimité dans le débat public. Finalement, ils cadrent les problèmes, c'est-à-dire les présentent sous un angle particulier.
C'est un peu comme quand, pour les manifestations, tout ce qui les intéresse, c'est la sécurité.
C'est ça. Elles sont abordées sous le prisme sécuritaire, avec notamment une réutilisation du langage préfectoral. Éléments radicaux, débordements, dispositifs policiers, etc. Autrement dit, si les médias ne disent pas quoi penser, ils disent à quoi penser et comment y penser.
On voit donc que les médias ne traitent pas les informations à la mesure de leur importance, ni de manière impartiale ou juste. Ils ont leurs propres intérêts et contraintes qui modulent les informations qu'ils traitent et la manière dont ils les traitent.
Ce rapide panorama des militants et militantes et des médias permet de dégager des questionnements sur leur rôle, leurs impératifs et leurs stratégies. On va donc pousser notre analyse et nos réflexions sur la relation militant-médias dans la lutte environnementale.
Exactement. Et c'est aussi une bonne manière de questionner les stratégies mobilisées par les militantes et les militants. D'une part, pour contrôler l'information relayée par les médias et d'autre part, parce qu'il existe aujourd'hui une pluralité de positionnements pour entrer dans le champ médiatique.
Et sans oublier les conséquences. Les médias ne sont pas neutres et comme je le disais tout à l'heure, ils sont aussi contraints à des impératifs comme celui de l'audimat et ne restent donc pas passifs. sera donc intéressant de voir le revers de la médaille et les dynamiques à l'œuvre entre militants, militantes et médias.
Pour la suite de l'émission, on a fait le choix de prendre plusieurs exemples, plus ou moins différents, afin d'illustrer au mieux la pluralité de ces stratégies. Les actions choc de Greenpeace à la stratégie alternative de Bassine Non Merci, construite en opposition aux médias traditionnels, nous vous proposons aujourd'hui d'explorer le militantisme environnemental et son immersion médiatique.
On verra aussi, notamment avec l'épisode de Sainte-Soline, que même si les groupes militants développent des stratégies, ils ne peuvent jamais totalement contrôler le discours des médias et que ce dernier peut parfois leur causer du tort.
Pour débuter, on vous propose de découvrir comment Greenpeace a réussi à arrêter un partenariat entre Lego et Shell avec une vidéo, un hashtag et quelques photos. Ce partenariat existait depuis plus de 50 ans et a été arrêté suite à seulement quelques mois d'action par Greenpeace et une campagne qui s'est presque entièrement déroulée sur Internet.
C'est dans un contexte d'affrontement au long terme avec Shell, une grande compagnie pétrolière, que l'ONG décide d'engager la bataille autour de l'opinion publique. Tout commence le 1er juillet quand Greenpeace invite Lego dans la danse par un communiqué où l'ONG déclare entrer en campagne avec comme objectif la fin du partenariat qui unit Shell à Lego.
Mais en quoi consistait ce partenariat ?
Eh bien, il s'agit d'une stratégie de promotion. Fabrication de sets de jeux à l'effigie de Shell et vente de figurines Lego Ferrari conditionnées à l'achat d'une essence vendue par Shell. Greenpeace reproche donc à Lego d'être utilisé par Shell afin de valoriser son image et ses ventes. Il ne s'agit pas ici de demander à Lego d'arrêter l'usage de pétrole pour fabriquer ses petites figurines, d'autant plus que l'entreprise est connue pour ses prises de position environnementales.
L'ONG va alors multiplier les coups médiatiques visant à convaincre le fabricant de jouets danois de renoncer à son partenariat. L'objectif n'est évidemment pas de faire appel à l'éthique ou à la sensibilité de l'entreprise, mais plutôt de convaincre les dirigeants que ce partenariat va leur faire perdre plus de clients qu'il ne leur fait gagner d'argent. Cet écart, Greenpeace cherche à le matérialiser avec une pétition dont les signatures grossissent à mesure que les actions et les hashtags s'enchaînent.
Action a ici un sens particulier. En effet, les activistes se déplacent surtout pour produire des photos plus marquantes, comme à Legoland le 2 juillet ou devant le siège social de Shell le 29 juillet. Le coup d'éclat de cette campagne est d'ailleurs un clip YouTube, Everything's Not Awesome, avec la musique du populaire film Lego sorti la même année. On y voit un joyeux paysage arctique rempli de sympathiques figurines Lego, dont le visage en vient à exprimer la terreur alors qu'une marée de pétrole les recouvre peu à peu. Lorsqu'il ne reste plus rien à recouvrir, Greenpeace fait sonner une morale qui résonne comme un avertissement. Shell pollue l'imagination de nos enfants. Il a alors suffi d'un hashtag Lego bloque Shell et d'une pétition dépassant le million de signatures pour que Lego annonce le jeudi 9 octobre 2014 renoncer à son partenariat avec Shell.
Donc, Greenpeace a pu faire plier Lego sans avoir organisé aucune manifestation ni aucune action.
Pas exactement. Si aucune manifestation n'a eu lieu, Greenpeace a multiplié les actions. Simplement, elles avaient pour vocation à se dérouler sur Internet, comme une photo d'une manifestation de Lego par exemple. Ainsi, l'ONG n'a pas pris le risque de faire un flop et a vu ses actions être très largement médiatisées. Greenpeace a gagné car elle a compris que les réseaux sociaux étaient un terrain de bataille comme les autres.
Et c'est ce que je trouve le plus impressionnant. Non seulement Greenpeace a mis en recul la stratégie de popularité et de publicité de Shell en utilisant le capital sympathie de Lego, ainsi que la sensibilité dont bénéficient les problèmes publics liés à l'enfance, pour asséner un grand coup à la popularité de Shell. Mais en plus, cela s'est fait à coût très réduit et d'une manière qui a permis à Greenpeace de valoriser sa propre image. Dans cette action, l'ONG n'a jamais appelé au blocage ou même au boycott, évitant ainsi la position décriée d'écologie punitive. Pour autant, elle a su créer une pression populaire suffisante pour faire reculer Lego. En ciblant les réseaux sociaux et en multipliant les actions à objectifs purement médiatiques, Greenpeace a parfaitement réussi à gagner une bataille d'influence mal engagée.
L'exemple du retrait de partenariat entre Lego et Shell est très parlant. Et on l'a bien compris, Greenpeace a marqué les esprits et est très influente.
Effectivement, on peut dire que Greenpeace est une institution, voire même une économie. Il n'est pas rare de croiser des militants et militantes de Greenpeace dans la rue ou dans les universités, en train d'essayer d'enrôler de nouveaux adhérents et adhérentes. En 2001, Greenpeace distribuait déjà des brochures aux passants et passantes sur lesquelles elle s'autoproclamait ne pas être une association écologiste comme une autre. Elle se distingue par son importance et sa notoriété, avec environ 3 millions de personnes dans le monde qui soutiennent les causes qu'elle défend. Et j'ajouterais même qu'elle est assez réputée pour ses nombreuses actions spectaculaires qui lui apportent une grande visibilité médiatique.
Mais du coup, c'est quoi la stratégie médiatique utilisée par Greenpeace ?
En fait, on peut dire que les mouvements sociaux utilisent des stratégies médiatiques pour transmettre et diffuser au mieux leur information. En 2004, le sociologue Rucht a pensé ces stratégies et en a relevé 4. D'après nous, les militants et militantes de Greenpeace appliquent la stratégie médiatique d'adaptation, c'est-à-dire qu'ils adaptent leurs actions aux attentes des médias, en favorisant les actions coup de poing, les slogans et les messages simples.
J'ajouterais même que Greenpeace communique avec les médias afin d'en garantir une bonne couverture médiatique. Lors d'actions médiatiques, l'ONG va centraliser d'ailleurs la totalité des images et des discours proposés par les activistes en temps réel et en libre accès. Ces images et discours sont repris ensuite sur les différents médias mainstream. Pour illustrer simplement, en septembre 71, une quinzaine d'activistes se sont rendus au Canada afin de rejoindre le lieu d'un essai nucléaire souterrain sur une île en Alaska. À cette équipe s'ajoutent 6 journalistes de médias canadiens, notamment une équipe de la chaîne télévisée CBC et un journaliste du Vancouver Sun. Ces informations ne sont pas négligeables, le fait d'amener une équipe de télévision n'est pas anodin, puisque cela permet aussi d'avoir une visibilité choisie de leurs actions.
On peut aussi dire que les actions médiatiques de Greenpeace peuvent être comparées à des campagnes publicitaires, avec par exemple la création d'un remix de la Marseillaise pendant la campagne présidentielle. Dont le but était de sensibiliser les citoyens et citoyennes, puisque la quasi-totalité des candidats et candidates ont fait l'impasse sur la question environnementale. Ils ont même créé une chanson et un clip vidéo pour se faire entendre et pouvoir peut-être inciter comme eux des jeunes à s'engager dans les luttes environnementales. Dans la même idée, on peut aussi se remémorer leur court-métrage mettant en scène une caricature du Premier ministre Boris Johnson se faisant envahir de déchets plastiques pendant un meeting.
En résumé, ces coups médiatiques permettent à Greenpeace d'obtenir une forte visibilité sur les enjeux environnementaux qu'elle va défendre. De plus, les actions médiatiques permettent de montrer la force de l'organisation ainsi que sa réputation d'ONG, qui agit concrètement pour l'environnement. Elle regarde précisément ce que les médias publient avant de les sélectionner, pour transmettre les messages portés par les différentes campagnes, tout en rappelant systématiquement ses valeurs de non-violence et d'indépendance. Ensuite, les médias relaient le discours déjà tout préparé de Greenpeace, s'installe alors entre eux une sorte de compromis qui permet à Greenpeace de visibiliser ses actions tout en gardant le pouvoir sur le discours qu'elle veut prôner.
Oui, c'est ça. Globalement, Greenpeace contrôle son image médiatique et n'hésite pas à faire des communiqués pour démentir des accusations qui leur sont destinées. Par exemple, ils ont souhaité répondre à un journal Le Point datant de juillet dans lequel l'organisation de Greenpeace est critiquée et remise en cause. À cela, Greenpeace réagit et répond: la vision que nous portons depuis des années n'est pas un dogme ou une idéologie, elle s'appuie sur des recommandations de la communauté scientifique et a été confortée dans le dernier rapport du GIEC publié au mois d'avril. Nos rapports sont sourcés, transparents et s'appuient sur de solides expertises, contrairement aux accusations portées dans ce journal. À travers cette réponse, l'idée principale est de rappeler au journal que leurs actions sont portées et légitimées par des résultats scientifiques comme le rapport du GIEC.
Nous voilà arrivés à la moitié de l'émission. Si on résume, on a vu avec Greenpeace en quoi consistait la stratégie d'adaptation. Mais ça serait dommage de passer à côté d'autres modes d'action. On vous propose, après un rapide interlude musical, de découvrir la stratégie, celle utilisée dans la lutte contre les projets de mégabassines. A tout de suite.
Skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. Mercy. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Lost my radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby all us die. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Oh, no.
C'était Merci Merci Me de Marvin Gaye, écrite dans les années 70 et qui parle d'une nature abîmée par l'homme et de la dégradation de l'environnement.
Alors il existe aussi la stratégie médiatique d'abstention, c'est-à-dire une absence de recherche de couverture médiatique, ou la stratégie d'attaque qui consiste en une stratégie agressive de contestation et de défi frontal, comme quand ACT UP s'en est pris aux médias états-uniens dans une séquence où ils identifiaient le sida à une maladie d'homosexuel.
Je crois qu'il rajoute même une dernière stratégie assez différente des autres, la stratégie alternative où il s'agit de viser l'autonomie médiatique par la création de son propre média. Ceci permet à un mouvement de relayer les informations qu'il souhaite sans avoir à subir les contraintes des médias.
Sa typologie, elle est intéressante, mais il ne faut pas oublier qu'il n'existe pas une seule classification aussi évidente. Chaque mouvement, collectif ou organisation a la capacité d'utiliser une multitude de stratégies en fonction de ce qui semble le plus pertinent. Il ne faut pas donc imaginer que Greenpeace a une stratégie unique, même si pour nous, il apparaît que cette stratégie d'adaptation, est celle que nous retrouvons le plus dans l'organisation.
Oui, tu as raison de le préciser. Il existe une multiplicité de modes d'action chez les militantes et les militants. C'est ce que nous avons cherché à illustrer en mettant en parallèle une organisation telle que Greenpeace avec le collectif Bacille Non Merci, qui s'en distingue nettement aussi bien en termes d'échelle que de modalité d'action. Cette comparaison nous permettra de mettre en avant d'autres types de rapports aux médias, dans les mouvements militants écologistes.
Il me semble que Bacille Non Merci est un collectif bien moins connu que Greenpeace. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est aux auditeurs et auditrices ?
Oui, t'as raison. Même si les récents événements à Sainte-Soline ont mis le collectif local et indépendant sous les projecteurs, celui-ci se mobilise depuis environ 5 ans. Il porte des revendications en réponse aux multitudes de projets, de réserves de substitution agricole en Poitou-Charentes. Il regroupe particuliers, associations, syndicats et partis politiques qui vont notamment agir dans les sphères juridiques, politiques et via des mobilisations citoyennes.
Depuis 2017, Bacille Non Merci lutte contre l'accaparement de la ressource en eau par une minorité qui, au-delà des problèmes éthiques que cela cause, est grandement nuisible aux milieux aquatiques et réserves d'eau potable. Ces stocks d'eau, généralement appelés méga-bassines, sont des réservoirs d'environ 8 hectares qui peuvent puiser dans les nappes phréatiques. Ces réserves de substitution ont pour vocation de lutter contre les menaces qui pèsent sur la ressource en eau. Mais ces projets visant à dédier des centaines de milliers de mètres cubes à une minorité d'irrigants pratiquant une agriculture intensive pourraient donner lieu à ce que Julien Leguet, porte-parole de Bacille Non Merci, voit comme une guerre de l'eau qui ne ferait que commencer.
Si je me souviens bien, le collectif indépendant s'est surtout fait connaître par les 7 waterstocks qu'il compte à son actif. De 2017 à 2020, il a réuni des milliers de personnes autour d'actions diverses telles que des manifestations, la création d'une zone de résistance ou encore des actions de sabotage. Souvent soutenues par les citoyennes et citoyens, élus ou autres associations, Bacille Non Merci incarne malgré tout un réseau de lutte locale avec un répertoire d'actions diversifiées ainsi qu'un rapport alternatif aux médias.
Exactement. Et c'est cette stratégie alternative que nous nous proposons d'expliquer et d'analyser ici. Il s'agit d'une stratégie d'autonomie médiatique par la création, pour un mouvement, de son ou ses propres médias.
Pour être efficace, il apparaît effectivement nécessaire qu'un mouvement ou une organisation se fasse une place au-delà de lui, en allant à la recherche de l'opinion publique ou des médias afin de publiciser ses actions et ses idées. On parlait tout à l'heure des médias et de leurs obligations en termes d'audience. Pour Bacille Non Merci, il ne s'agit pas de s'adapter à ces médias traditionnels pour gagner en audimat, mais plutôt de se positionner en tant que média parallèle et autonome. L'objectif est de pouvoir relayer librement ses idées et valeurs.
D'ailleurs, tu as employé le mot autonomie, mais ici, et dans la typologie que propose Rouch, l'idée n'est pas seulement d'être autonome, mais surtout de reconquérir un espace dans le champ médiatique. Il s'agit alors pour un mouvement de produire ses propres médias, de toucher un public élargi sans passer sous les fourches codines de la presse nationale et des télévisions généralistes.
Mais comment ça se passe concrètement ?
Alors un bon exemple serait la création de leur chaîne YouTube qui se présente comme un média autonome, BNM TV, un nom qui ne manque pas de rappeler à un média bien connu. Cette caricature montre bien leur volonté de s'opposer au traitement de l'information fait par les médias mainstream. Ils ont ainsi une plus grande liberté de sujet et de format, ils peuvent montrer ce qu'ils veulent, les interviews peuvent durer plusieurs minutes, là où des médias traditionnels ne gardent généralement que quelques phrases.
Oui, mais pourtant, on a pu voir que les actions récentes du collectif ont fait l'objet d'une importante couverture médiatique.
C'est vrai. Pour rappeler le contexte, le 25 mars dernier à Sainte-Soline, dans le département des Deux-Sèvres, des dizaines de milliers de manifestants et manifestantes sont mobilisés pour s'opposer à un projet de méga-bassine. Si les premières luttes du collectif Méga-Bassine Non Merci étaient organisées par les acteurs et actrices locaux et locales, il s'est finalement allié à une multitude de militants et militantes de tous horizons, au sein des soulèvements de la Terre. Ce mouvement organise collectivement des actions selon un calendrier national d'action et de blocage, de désarmement et d'occupation de terres, dans le but de créer un rapport de force de plus grande envergure.
Et j'ajouterais même que la création de ce réseau d'activistes a permis aux militants et militantes d'avoir davantage de poids dans la sphère publique et médiatique. Outre le changement d'échelle, le collectif résonne en termes d'efficacité. Ils n'hésitent pas à varier le mode d'action et utiliser l'attention médiatique qu'ils obtiennent. C'est d'ailleurs ce que l'on a pu voir à Sainte-Soline ou plus récemment en Occitanie contre le projet d'autoroute A69 qui relierait Castres à Toulouse.
Tout à fait. On a même pu voir des actions de sabotage, la destruction d'une pompe centrale et de plusieurs canalisations autour de la retenue d'eau par exemple. Cela n'empêche pas des mobilisations axées sur le symbolique, comme la construction d'un mur de parpaing au milieu de la route ou encore une course de voitures artisanales au message revendicatif.
Mais, en quelque sorte, si les soulèvements de la terre et Bassi non merci proposent des actions plus radicales et contestataires et font le choix d'une stratégie médiatique alternative, quels effets ça a, ce mode d'action, sur les couvertures médiatiques ?
Pour les soulèvements de la terre, la réponse est très claire. Ils sont largement discriminés. À Sainte-Soline, qui fut l'une des plus grandes manifestations écologiques des dernières décennies, la répression policière fut d'une violence rarement atteinte. Plus de 3000 gendarmes déployés ont tiré grenades et LBD sur les manifestantes et manifestants et ont bloqué l'accès au SAMU plusieurs heures.
Pourtant, ce n'est pas ce que la plupart des médias mainstream, en particulier les chaînes d'information en continu, ont laissé voir de la situation. Dès la veille, le chaos est annoncé avec des informations de la préfecture prises pour argent comptant. Pendant 48 heures, les chaînes télévisées alertent sur la présence d'individus formés à la violence. Le jour même, pas d'amélioration, puisque ce sont la préfète, plusieurs policiers et policières syndicalistes et une lieutenant-colonel qui sont invités. Finalement, l'avis des agriculteurs et agricultrices est ramené à la prise de parole du vice-président de la FNSEA, connu pour sa défense de l'agro-industrie. Des images tournées directement par des gendarmes ont été montrées et à aucun moment, les raisons de la mobilisation ou les discours des militants et militantes n'ont été évoquées.
À la fin de la journée, on a même vu les journalistes de BFM se féliciter que les choses avaient été maîtrisées sur le terrain, alors que plus de 200 manifestants et manifestantes ont été blessés, dont deux dont le pronostic vital a été engagé.
Et c'est justement ce traitement médiatique qui a permis de justifier le lendemain la déclaration de Gérald Darmanin, qui a annoncé vouloir dissoudre les soulèvements de la terre. Il est donc clair que la projection médiatique des actions militantes est un enjeu majeur, au vu de l'impact que peuvent avoir les médias dans notre société.
Oui, on l'a très bien vu avec les exemples de Greenpeace et Bassi non merci. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on s'intéresse à la question de la mise en récit des luttes. Avoir le pouvoir sur la mise en récit, ce serait éviter de voir sa parole confisquée ou son récit déformé s'il est laissé à d'autres. C'est même refuser la simplification du discours médiatique. Tous ces risques-là, j'ai l'impression qu'on les entend assez distinctivement dans les discours de militantes et militants, en opposition justement aux médias plus classiques.
Il y a aussi un paradoxe assez fort dû au développement des médias. Bien qu'ils puissent permettre d'étendre la portée des actions à la sphère publique, ce n'est pas sans contrepartie. Simplification du message, perte de contrôle de la temporalité, personnalisation de la lutte. Est-ce qu'au final, les questions qu'il ne faudrait pas se poser ne seraient pas plutôt qui raconte ces luttes et via quels outils ? Quels intérêts les médiateurs peuvent-ils avoir ?
Mais c'est vrai que l'enjeu de raconter ses propres luttes arrive finalement en réponse aux logiques du système, ne serait-ce que parce que celui-ci a contribué à mettre à distance les acteurs et actrices de leur puissance d'agir et leur voix politique. Et c'est cette invisibilité qui ne leur laisse pas la place dans les agendas politiques établis par ces médias même. On comprend du coup que c'est aussi cette expérience qui pousse à la lutte pour la visibilité des militants et militantes, y compris par la création de leurs propres outils et espaces sur la scène publique. Il me semble justement que les sociologues Fabien Grandjean et Dominique Cardon qualifient cette création d'alternative de médiactivisme.
Mais en quoi ça consiste concrètement l'idée de ce médiactivisme ?
Alors il rappelle que la stratégie alternative dont on a parlé tout à l'heure, c'est une posture avec laquelle les militants et militantes peuvent relayer un discours et porter justement leur propre voix, devenir leur propre média. Raconter leurs expériences avec leurs mots sans passer par un intermédiaire finalement.
Oui, c'est ça. C'est l'idée de se réapproprier son propre récit, rester maître et maîtresse de sa réalité. On peut avoir l'image des discours comme lieu d'affrontement des visions du monde, comme l'explique Clément Mabi, qui lui s'intéresse notamment à la participation politique et aux usages citoyens du numérique.
Donc, si je comprends bien, sur un même sujet, on entendra une multitude de discours qui correspondent à une multitude de perceptions et de formes médiatiques, comme si on imaginait que sur la même grappe de raisin, chaque grain avait un aspect différent.
Mais tout à fait. Et si je reprends ta métaphore, chaque grain pourrait être associé à une arène sociologique différente. On pourrait même dire qu'avec l'arrivée du numérique, il y a de plus en plus de grains sur une même grappe.
Ou même que ces arènes numériques vont complètement transformer les hiérarchies symboliques et la forme de notre grappe initiale.
Oui, mais même si le numérique bouleverse peu à peu cette hiérarchie entre les médias, on ne peut pas nier la présence de médias traditionnels, classiques, qui sont déjà des institutions. Aujourd'hui, ils apparaissent comme crédibles et légitimes pour communiquer sur une pluralité de sujets, alors qu'ils favorisent des systèmes narratifs spécifiques.
Comment ça ?
Ça peut être par exemple l'usage de certaines images, certains vocabulaires ou encore la venue d'invités au statut d'experte et d'expert sur tel ou tel sujet. Cela renvoie aux mécanismes qu'on a décrits plus tôt.
En fait, les militants et militantes ont moins d'opportunités d'être représentés dans ce qui est proposé dans les médias mainstream. Ils doivent donc se faire leur propre place dans l'opinion publique et dans le champ médiatique. De plus, comme l'explique Clément Mabi, le camp qui peut se reposer sur la loi et les dispositifs institutionnels n'a pas le même impératif de communication pour rendre visible et légitime sa cause aux yeux de l'opinion publique.
C'est sûr. Tout ça revient à réfléchir à la question de la légitimité de la production de sens et de la véracité des paroles aux yeux de l'opinion publique. C'est finalement ça aussi l'un des enjeux majeurs des luttes environnementales. D'autant plus qu'être crédible ne signifie pas être entendu. Le GIEC nous l'a montré.
C'est déjà la fin de notre émission autour du militantisme et des médias. Nous avons eu l'occasion d'évoquer de nombreux sujets, mais pour résumer rapidement, les militantes et les militants font face à de nombreux impératifs vis-à-vis des médias et mobilisent diverses stratégies pour les causes qu'ils défendent.
En comparant Greenpeace et Bassine Non Merci, on a compris que ce sont deux organisations qui s'opposent, ou du moins qui se différencient, tant sur la forme juridique de leur statut et de leur organisation que sur les modes d'action qu'ils choisissent d'appliquer. Néanmoins, il n'existe pas de bon militantisme ni de stratégie parfaite. L'une des nombreuses clés semble être l'adaptation et la force du collectif. Plus encore, il n'existe pas une lutte environnementale, mais une multitude de luttes reliées entre elles. On pourrait même se demander si ce n'est pas la pluralité de stratégies militantes et leur articulation qui font de l'environnement un sujet de plus en plus visible.
On espère que cette émission vous a plu et on remercie nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Vous retrouverez les références sur le site et on vous invite à aller un peu plus loin en vous conseillant le célèbre livre de Bourdieu sur la télévision qui détaille les enjeux de la télévision plus largement du champ journalistique. Aussi, plus court, on vous propose de lire l'article de Clément Mabi sur les luttes sociales et environnementales à l'épreuve du numérique, radicalité politique et circulation des discours du même nom. Enfin, on vous invite à jeter un coup d'œil à la mini-série documentaire « Pourquoi on se bat » qui retrace en 4 épisodes le parcours de l'activiste climatique Camille Etienne et sa rencontre avec les médias.
Un grand merci à Jacques Lavergne pour nous avoir donné l'opportunité de faire ces émissions, ainsi qu'à Tiffaine à la technique. On pense aussi à remercier Geoffrey Carrère et Christelle Manifé qui nous ont aidés à construire cette émission. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission Vers de Terre. Can you hear it when your baby's crying?